Voilà, parfait. Allez. Alors, bonjour, bienvenue à la session Tips and Tricks. En effet, c'est un peu la continuation de la keynote, mais c'est beaucoup plus un deep dive et certaines peculiarités qu'on a dans la plateforme pour développer des applications Windows 8 XML. J'espère que l'IBMR va un peu mieux qu'avant parce que c'était vraiment un peu embêtant. Et on va démarrer tout de suite. Assez de content, je veux vraiment vous montrer beaucoup de trucs qu'on peut faire avec ce type d'application. Alors, juste pour récapituler où on était, on a développé une application pendant la keynote qui a un scroller, un grid view, qui charge avec un système de virtualisation asynchrone les données du file system. Je peux aller sur le détail de la photo. Je peux faire passer toutes les photos. On a fait un zoom. On a fait aussi la possibilité de faire un sharing de la photo. Ah, there was a problem data from. On a fait la barre pour naviguer. On a fait aussi le search. On peut dire, bon, je veux toutes les photos avec Yann, par exemple, avec l'intégration de search et tout ça. Et on l'a fait, on l'a publié dans le store. Mais en effet, ce n'est pas encore bien fini. On doit quand même encore ajouter et faire quelques parties sur mon application. Alors, on y va. Un truc que je n'ai pas montré pendant la keynote, mais qui c'est essentiel, c'est de se adapter à les différentes résolutions, la première chose, mais aussi de supporter le SnapView. Quand vous allez à la certification, si vous n'avez pas un SnapView, votre application, elle va être rejetée. Le truc, c'est qu'ici, il n'a pas de sens. Il y a certaines applications, un jeu, je ne peux pas montrer quelque chose dans le SnapView. Je ne peux pas jouer si ce n'est pas fait pour cette dimension-là. Mais je peux montrer une page qui dit, désolé, ma application, elle ne supporte pas le SnapView. Mais il faut quand même implémenter quelque chose. Juste à savoir, il faut faire quelque chose pour le SnapView. Pour certaines applications, on a vu la radio, la télé, Zatu, des trucs comme ça. C'est une chose très bien à faire. Pour certains d'autres, moins. Mais ce n'est pas trop difficile à faire. On va créer mon SnapView. Il y a plusieurs façons. Il y a une façon avec le View State Manager, en blonde, dire qu'est-ce que je veux voir ou pas. Il y a des façons compliqué ou il y a des façons très simples, je peux dire, bon, sur ma main page, première chose, c'est regarder qu'est-ce que ça arrive si je fais démarrer l'application, un SnapView, qu'est-ce que ça arrive. Je le donne un SnapView, oui, c'est pas vraiment bien le scrolling de ce côté-là, de cette façon-là, pour le. Ça marche, hein, c'est pas qui. Ça va passer le store, mais c'est pas très bien. Alors, on va faire vite le changement. On voit ici dans ma page de base, qui en a un grid view. Et là, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire non, j'aimerais bien voir un list view qui a un scrolling vertical. Alors, je pense que j'ai déjà préparé le list view. Et j'explique. Comme ça, on a vu le troisième contrôle que je n'ai pas montré ce matin. C'est le list view. Je dis, si c'est un snap view, je ne même pas que vous pouvez naviguer à la page de détail. Alors, je dis selection mode node, is item click. Enable false, par exemple. C'est la même structure qu'avant. Qu'est-ce que je vais appeler? Snap list view. Et la list view, l'unique chose qui se différencie, qui va être un scrolling vertical. La template, c'est exactement le même. Alors maintenant, je dois changer entre les deux modalités. Comment on peut faire ça? Une solution qui est très simple, c'est d'écouter l'événement. Si on fait un peu plus petit. On dit this size changed. Alors, si ça change la grandeur de la fenêtre, je dois faire quelque chose. Et ici, il y a un système pour comprendre en quelle modalité je suis. Alors, l'API, c'est très simple. Je dis, si le View Management Application View.value, c'est égal à snapped, ça veut dire je suis snap view. Qu'est-ce que je fais? Je cache le grid view, je monte le list view. Sinon, je fais le contraire. Tout bête, tout simple. Ça dépend de l'application. Peut-être je dois changer beaucoup, peut-être je décide SnapView, Navigate, à notre page. Hein. Ça, c'est la façon vraiment simple de faire les choses. Alors, je vais à un track, je vais là, c'est vite. Pourquoi c'est vite? Parce que je ne peux pas encore faire le data binding à le list view. Alors, on va faire ça. Dans mon code, vous voyez, je peux avoir le SnapView, même si j'écris du code. Je peux mélanger desktop app, SnapView et vice-versa. Et ici, je dois dire, une fois qu'il charge tout, il faut exactement la même ligne de code. Je dis, bon, main, SnapView, c'est quoi? Non, SnapListView, c'est le nom que je donnais. ItemSource, c'est égal à la même collection. Alors, le binding s'est fait le même. Une fois qu'il s'est montré un, c'est vertical, sinon c'est horizontal. Après, il faudrait faire encore quelque chose de plus parce que le titre, ce n'est pas très bien, mais au moins ici, on a mon scrolling vertical qui c'est beaucoup. Avec la même virtualisation, etc., etc., que j'avais avant, mais c'est beaucoup mieux pour le SnapView. Une fois que je décide, non, je ne suis plus SnapView, il va changer la grille et me montre mes grid view. Hein? Si vous n'avez rien montré, black ou la couleur que vous voulez avec le texte, cette application, elle n'a pas le Snap View. Juste, il faut faire quelque chose, sinon, passe pas la certification. Petit truc, mais c'est important. Un autre truc qu'on a qui c'est bien, alors on a un peu expérimenté, dans l'histoire de Windows, on a expérimenté les Unifiles, les registry settings, on a fait vraiment tous les essais possibles. Je ne peux pas dire qu'on a trouvé la bonne formule jusqu'à maintenant. La nouveauté en Windows 8, c'est que pour aller à chercher les settings, c'est la même chose pour tout le monde. Je montre après combien. Mais après, qu'est-ce que je fais avec les settings? C'est chaque application gère son setting comme elle veut. On donne des infrastructures qui aident le développeur à gérer les settings d'une façon intelligente. Alors, première chose à dire, comme ça marche le setting, swipe de droite à gauche ou avec la souris en bas et en haut. Ça sort la barre, le charm. Je clique sur le setting, ça sort le setting. Et depuis là, je peux ajouter des hyperlinks. Et depuis là, ça sort, ça rentre dans votre application. Et ici, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez montrer qu'est-ce que vous voulez en XAML. Alors, on va faire exactement ça. On va gérer. On n'a pas un contrôle de flyout par default dans le package, dans le Windows 8, mais quelqu'un du team, il a fait un open source project qui s'appelle Callisto, qui offre exactement cette librairie qui permet le flyout, qu'il faut écrire moins de code. Alors, on va faire. On va ajouter cette référence à cette librairie qui s'appelle Callisto. Voilà. Une fois que j'ai cette librairie, je peux commencer à ajouter une page qui c'est un user control, qui c'est le contenu de mon setting page. On va l'appeler user control, exactement comme il y a en Silverlight. Settings, voilà. J'ai ma page de settings. Je veux voir le designer. On va prendre un toolbox. On va chercher s'il y a un, c'est très pratique, s'il y a un checkbox. Je vais ajouter le checkbox. C'est écrit en blanc, ce n'est pas trop bien, mais on va l'appeler exif checkbox, juste. Et ici, on peut lui dire qui le content, par exemple, de checkbox content, qui c'est le texte, on va dire show metadata. Voilà. Il est là, hein. C'est blanche sur un background qu'il est transparent. Qu'est-ce qu'il en a de dire? Content, il avait déjà... Ah non, moi j'ai loupé, ça serait XName. Voilà. Alors, je lui donnais le nom et je m'en contenu. Voilà, le setting, c'est fini. Maintenant, je dois m'apercevoir que quelqu'un est rentré par le Windows 8 Charm. Il rentre dans le setting juste... Alors, comme je vais faire ça, je vais le faire en façon globale. Parce que je ne sais pas où je suis, juste en quelques pages ou sur deux autres pages, je vais dire settings pane. Exactement comme le search, c'est toujours le même pattern. Get for current view. Je lui dis, si quelqu'un me demande les commandes que j'offre, rentre dans cet événement-là. Alors là, on a un command request. Et là, je peux ajouter tous les hyperlinks que je veux. Alors pour faire ça, on prépare un peu de code. On a une méthode. Je vais le montrer tout de suite, expliquer bien qu'est-ce que je fais. Voilà. Je lui dis, je veux une nouvelle settings command qui s'est créée avec le settings commands là-bas et je vais l'ajouter à l'argument de cette command request. Je dis, j'ai une commande en plus. Le titre, il va être settings ou show info. Et là, je dis, je veux un settings layout qui sert à cette contrôle spéciale du Callisto library. Je lui vais dire qui c'est narrow, qui c'est assez petite. Je peux dire wide, il va prendre presque tout l'écran. Je lui donne le header text. Je lui donne le contenu. Le contenu, c'est là. L'instance de mon settings user control que je fais juste avant avec le checkbox. Hein. Et puis, je lui dis, il est ouvert. C'est fini. 5 lignes de code. Maintenant, si je fais démarrer ma application, on va passer par le settings charm. Voilà. Settings. Et là, show info, il va sortir mon settings, settings pane. Et ici, je peux changer les settings que je veux. Je n'ai pas fait un save button parce que l'idée de Metro, c'est une fois que je fais comme ça, ça sauvegarde les settings. Et c'est fini. Mais non, l'unique problème, c'est qu'on n'a fait rien du tout avec cette settings. Mais quand même, j'arrive à montrer depuis là, qu'est-ce que je fais? C'est à moi. Alors, le truc classique, c'est, je sauvegarde les settings dans mon local storage. Et puis, je le lis après quand je l'ai besoin, juste. Maintenant, il y a un peu une particularité dans Windows 8 qui, c'est, je trouve génial. C'est la possibilité de voir les settings qui vont être stockés aussi dans le cloud et qui vont être automatiquement synchronisés entre ma application. Ça veut dire que je peux installer la même application si j'utilise le même Live ID, hein, le même ID que je suis installé sur plusieurs machines. Et depuis là, automatiquement, si le développeur choisit de le faire, mes settings vont être roamés automatiquement sur toutes les machines. Ça veut dire que j'installe l'application photo sur ma machine principale. Je décide le langage, les settings, tout ce que je veux. Automatiquement, je vais sur ma tablette ARM, j'installe l'appli avec le même Live ID, je dis, ouais, je veux le photobrowser, j'ouvre le photobrowser, il a déjà tous les settings que je veux avoir. Je peux faire pas que les settings, mais je peux même stocker des fichiers. Ça veut dire, je suis en train d'écrire une lettre en Word, je peux sauvegarder un fichier temporaire si je veux, et automatiquement, ce fichier il est synchronisé sur les autres devices qui gèrent cette application. J'ouvre l'autre application, j'ouvre Word sur une autre application et automatiquement, je me retrouve où j'étais sur l'application principale. C'est pas mal, mais l'avantage de ce système-là, il est très, très facile à faire. Ça veut dire qu'ici, je rentre dans l'application. Si on veut, par exemple, on va le dire dans le settings et on va lui dire, bon, alors, vu qu'il n'y a pas un save button, on va faire avec des événements. This loaded and this unloaded. Voilà. Alors, on va dire, une fois que je charge, il serait bien de loader ce que j'ai déjà stocké. Sinon, si je vais dans l'unloaded, je dois sauvegarder les settings. Et là, je peux dire que je veux aller dans le storage. Voilà. Et si storage, il y a un application data.current. Et ici, vous voyez, il y a quatre trucs bien. Local folder, c'est le file system dédié, c'est l'isolated storage de Silverlight, dédié que à vous. Personne ne le voit. On a un autre truc qui c'est local settings, qui sont les settings qui c'est que pour cette application-là, que locaux. Ou sinon, on a la même chose avec roaming settings et roaming folder. Vous voyez, il y a roaming folder et roaming settings. Alors, si je fais roaming settings.value, automatiquement, qu'est-ce que je vais stocker là-dedans? Ça va être automatiquement synchronisé entre ma application pour le même utilisateur. Super facile. On va écrire le code qui ça marche. C'est vraiment pas trop compliqué. Une fois que je unload, je décharge la page, je dis le value d'exif, c'est le boolean du combo box. Je peux, tout ce qui est serializable, je peux le mettre là-dedans. Et si je charge, je dois dire, est-ce que j'ai déjà une valeur là-dedans? Alors, si j'ai une valeur là-dedans, lis-le et mette dans le checkbox. Alors maintenant, très très facile, je rentre, je change le paramètre. Voilà, dans settings, je dis exif metadata, je sors même de l'application. On redémarre l'application. Je vais dans mon settings. Voilà. Et automatiquement, vous voyez, il a gardé le settings que j'avais. Bon, maintenant, je dois faire quelque chose avec le settings. On va faire vite quelque chose juste qui ça donne du sens à l'application. Dans le photo viewer, il serait bien montré le nom et quelques informations de la photo sur, imprimées sur mon image. Alors, pour faire cela, pour chaque image, alors je vais le faire dans le Free View Item Template, on va mettre une petite information. On va lui dire, je veux une bordure, et à l'intérieur de la bordure, j'ai deux text box qui donnent le nom du fichier, mais aussi, vu qu'il est en photo, avec quel type de caméra je fais la photo. Je peux lire le temps d'exposition, tout ce qu'il y a dans le fichier, si c'est un document, l'auteur, le copyright, tout ce que vous voulez, le file system il me le donne. Maintenant, l'unique chose, je veux, ça dépend du setting, je veux changer si c'est visible ou pas. Un truc qu'on peut faire avec XAML, c'est changer la visibility avec un convertisseur. Et le convertisseur, il va lire le paramètre. On a vu déjà le convertisseur avant dans la keynote. Alors, ce que je vais faire dans le convertisseur ici, c'est vite fait. On va copier mon convertisseur ici que j'avais déjà fait pour le thumbnail. On va l'appeler Visibility Converter, celui-là. Visibility Converter. Et ici, je dois faire vraiment un truc super simple. Voilà. Je dois dire... C'est vraiment simple. Je dis, attention, ça ne sert même pas, je n'ai même pas à regarder les valeurs. Hein. Voilà. Alors, ça n'a même pas besoin. Je dis, attention, si j'ai une valeur dans l'exif, dis-moi si je dois montrer le truc et je retourne le convertisseur visible ou collapse. C'est tout ça. Alors, automatiquement, il va, quand je fais le binding, il va automatiquement changer les informations. Maintenant, je dois brancher le convertisseur. Visibility Converter. On va le choisir ici. Voilà. On va choisir ici. On fait un copy-paste juste pour gagner du temps. Et on va l'appeler Visibility Converter Type. Visibility Converter minuscule. On va voir si j'ai bien branché là. Visibility Converter, on va le copier si je mal typé, voilà. OK. Alors, si je n'ai pas loupé, l'aime pas trop, hein. J'ai loupé quelque chose, on va voir tout de suite. Je vais louper quoi? Thumbnail Converter, Visibility Converter. Hello! Je le sais, qu'est-ce que je pense qui. Tu dis photo 2. Quelqu'un voit l'erreur? Serait bien. Alors, photo viewer, on va dire local visibility converter. Pourquoi? Oups! Bon, si j'avais regardé qu'est-ce qu'il me dit Visual Studio, il me dit attention, qu'il le data template, il peut avoir qu'un seul contrôle, et maintenant je pense qu'il est bien, il peut compiler. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié de. J'avais deux contrôles au niveau du data template. Data template, il veut un contrôle seul, et après, il y a toute l'hierarchie. Alors, j'ai mis en gris. Petite erreur, mais c'est bien. Comme ça, on voit que c'est live. Et vous voyez qui déjà, ça sort les informations là en bas de ma caméra. Maintenant, je peux aller chercher les settings. Je vais changer. Maintenant, il y a l'effet de la virtualisation. Il faudrait faire un refresh, ce que je n'ai pas fait. Mais après, il est parti. On n'a plus les settings. On a vu, c'est assez facile, stocker des settings, faire du roaming settings et avoir ce type de fonctionnalité à l'intérieur de ma application. Très bien. Alors, ce n'est pas obligatoire d'utiliser le roaming settings, mais je pense que c'est vraiment une chose bien, qui serait bien de faire dans les applications. Un autre truc qui c'est très très important, c'est d'avoir un tile. Un tile, c'est cette image-là sur le start screen. On peut construire un. Par default, on a deux types. On a un qui c'est carré, 150 par 150 pixels, et un de 310 pour 150. Et là-dedans, par défaut, vous avez votre logo, qu'est-ce que vous voulez. Et c'est déjà bien d'avoir quelque chose de créatif parce que les gens, vu qu'ils sont assez grands, ils le voient tout de suite. Ils tendent à utiliser plus l'application. Je fais un essai avec, déjà dans le store, avec Deep Zoom Zermatt. Je fais une icône très bête. Il n'y avait pas de download. J'ai changé avec le cerveau la photo. Il a commencé à avoir des downloads. Juste pour dire que c'est très essentiel. Mais la chose qui c'est intéressant, des tiles, qu'on a vu. On peut avoir des notifications, il peut recevoir des informations changées, mais aussi on peut avoir des tiles secondaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux avoir plusieurs tiles pour la même application. Ça veut dire je peux créer des favorites. Et si vous vous rappelez à la keynote, je fais voir que Swissquote, j'avais Microsoft, j'avais le dollar contre franc, j'avais l'euro contre franc, comme ça. Ce sont tous des secondary tiles qui servent à rentrer dans l'application un certain statut. Alors, si j'aime bien une photo, il serait bien que je fasse un bookmark, si vous voulez, de cette photo-là. Alors, on va le faire vite. Je vais dans mon photo viewer, je vais ajouter un bouton. On ne va pas ajouter la même, vous avez vu déjà ce matin, comment faire un bouton, y changer l'icône et tout ça. On va faire vite ici, on laisse toujours la même icône. On doit lui dire qu'il s'appelle. Qui s'appelle Pin Button, Pin to Start. On a tout aussi le système de localisation. Hein. On a un système qui automatiquement, je peux avoir des ressources files qui vont changer cette propriété avec les multilingues, si jamais, s'il y a une question sur celui-là. Et je lui vais dire qu'une fois que tu cliques, il faut faire un autre événement. Voilà. IntelliSense, voilà. Parfait. Maintenant, dans le ping-click, qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer un nouvel tile, un secondary tile. Pour faire ça, il faut aller, première chose, il faut aller chercher quelques informations. Je vais faire voir, c'est assez vite fait. On va dire, je veux savoir où je suis positionné sur le Free View. Ça, on l'a déjà fait. Je sais sur quel fichier, sur quelle photo je suis positionné. On a vu que c'était asynchrone. Ici, il ne faut pas louper comme ce matin. On va dire async, await. Ken, il va faire une session après qu'il explique comment on fait à gérer, comment on fait créer mon truc asynchrone. Pas trop perdre du temps ici. Je dis bon, on va. Le problème, je ne peux pas faire un tile avec une image qui est dans le picture library. Pourquoi? Parce que l'utilisateur, il efface la photo et mon tile n'a plus rien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais une copie du thumbnail de la photo originelle dans mon local storage. Et après, je lui passe le URL. Alors, ici, je vais créer le local folder. Alors, je veux accéder le local folder, My Isolated Storage, et je dis, va créer un fichier avec le nom. Ici, je peux même faire des répertoires. Ce n'est pas flat. Je peux faire tout en structure. En ce cas-là, je dis simplement, crée le même fichier avec le même nom. Ouvre cette storage file. Et puis, copy and close, le stream de thumbnail de la photo là-dedans. Fini. Je fais une copie du stream, sauvegarde et c'est fait. Maintenant, je veux créer l'URL de envoyer le tile. Je dis bon. Et ici, c'est la syntaxe, ça veut dire mon local storage. Alors ici, ça va être picture234.jpg. C'est exactement le fichier qu'on a sauvegardé ici. Et puis, j'utilise le secondary tile et je lui dis, j'aimerais bien voir comme titre le nom, comme ID le nom, comme description le display name, et comme paramètre, ça c'est le paramètre, encore une fois le nom, string argument, c'est l'argument. Si je veux des options, et cette fois-là, j'utilise la même photo pour le wide et pour le carré. Vous vous rappelez, on a deux types de taille. Je lui dis, le foreground text, c'est dark. Et là, je suis prêt à lui dire secondary tile request for selection async. Ça veut dire fell pin. Maintenant, il veut un rectangle de ma application pour faire un petit preview. Alors, on doit lui donner un rectangle. Ça, c'est vraiment. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas une classe qui fait ça. Toujours, je le dis, hein, je ne comprends pas. Mais bon, elle va lire où je suis et lui donne un coordonnée. Rien d'intéressant. Et voilà. Maintenant, je peux démarrer ma application. Aller dans la photo qui j'aime. Je ne sais pas. Le téléphone qui ne sait pas bien. Elle est très contente parce qu'elle peut tenir, le garder et le lancer de la fenêtre. Et ici, je peux faire pin to start. Il fait le preview de ma image. Oui, j'aime bien ça. Et automatiquement, quand je vais dans mon start button, je ramasse l'image. Petite ou large. Alors ça, c'est exactement quand SnowReport ça marche. Une fois que je clique, il va redémarrer l'application. Maintenant, je ne fais rien. Alors ça veut dire qu'ici, je suis positionné sur cette photo-là et je redémarre l'application. Il est sur la photo mauvaise, hein. Alors, on doit faire aussi ce petit code-là. On peut utiliser le paramètre pour faire ce qu'on veut. On peut faire une nouvelle query comme ça. Alors, au lieu de se positionner sur la photo, je vais faire une query avec toutes les photos avec ce nom-là, juste pour faire voir un truc un peu différent. Alors, on peut dire, dans la partie globale, on va lui dire qu'on a aussi une variable qui s'appelle string file name. Et maintenant, une fois que ma application vient d'être appelée, je peux regarder. En effet, le tile va envoyer l'argument. C'est l'ancien paramètre de star qu'il y a depuis le DOS, je pense, qui c'est le personne 1. Il arrive les paramètres de démarrage. Je dis, si je le paramètre, le file name, c'est égal à les arguments. Je peux faire un parsing, je peux faire. Si je branche sur un fichier, je dis, si je ouvre le JPEG, c'est exactement le même. Je set cette propriété-là. Et à cette fois-là, l'unique chose que je dois aller, c'est aller ici et changer le code. Et je pense que le truc, c'est exactement. Vous vous rappelez, je fais avant avec les keywords, je fais exactement la même chose avec le nom du fichier. Et je dis, search filter. Cette cas-là, c'est le file name que j'aurais envoyé. Alors maintenant, si je redémarre l'application, et j'espère ne pas avoir loupé, je vais là, je clique mon fichier, automatiquement, il va faire la query du fichier. Ah, il n'a pas fait. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ça, c'est juste. L'unique chose que je fais ici, je pense que arguments, et puis de faire la navigation. Ah oui. Alors, ça c'est une classique chose qu'il faut faire attention quand on développe des Windows 8. Qu'est-ce que s'est passé? L'application, il était déjà démarré et c'était seulement frozen state. Ça veut dire que quand ça redémarre, elle fait une logique qui ça peut être différent, qui c'est si je démarre de zéro. Et de cette façon, le template par default, il dit, ah, fais attention. Si je pars le contenu, si le contenu c'est nul, je vais faire la navigation. Sinon, je ne fais pas. Et moi, je veux forcer qu'il fasse la navigation chaque fois. Alors, maintenant, rentre. C'est juste ça. Il faut toujours penser. Hein. Il y a deux states. Il y a resume ou il y a start de nouveau. Alors, maintenant, je rentre dans ma application. je clique la photo et automatiquement il a fait la navigation avec cette filtre qu'il a fait. Juste pour faire voir le secondary tile, c'est très pratique pour avoir un favorite, surtout si l'application il a un sens de l'avoir. Il ne faut pas le faire juste pour le faire. Mais comme le Snow Report, je veux Airolo et Grindelwald par exemple. Et pour le Swiss Quote, je veux l'euro, le dollar et Microsoft par exemple. Il a le sens d'offrir un secondary tile. On a vu qu'il secondary tile, c'est bien. Mais il manque quelque chose, il est très statique. Il a une photo, il reste toujours la photo. Alors, un truc que je peux faire avec les tiles, je peux faire des live tiles. Des live tiles, ça permet de montrer des informations sur les tiles. Mais ma application, ça ne marche plus. Hein. Le tile, ça marche, mais l'application, pas. En effet, je peux donner jusqu'à 5 updates. Je dis, oh, il faut faire ça, 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 même avec le temps. Et automatiquement, le système, il va changer les tiles à partir de ce que je donnais. Les tiles, on peut l'updater avec Windows Notification Service, avec des autres trucs, aussi à partir de l'application elle-même. En effet, si vous voyez la picture, il y a un picture library ici, ou même celui-là, ou celui des photos, je ne sais même pas où sont les mes photos, mais c'est fait, ah, ici les photos, et change toujours la photo. Mais en effet, ce n'est pas que l'application photo elle marche, elle continue à changer les photos. Le truc qu'ils font, ils font, une fois que je ferme l'application, je me sens 5 notifications de les photos que je veux faire voir pendant que je suis terminé. Un petit truc qu'ils font, on va faire le même truc. Vous voyez, je change aussi les photos. Alors, le truc, c'est facile. Dans le app XAML, on a un événement qui s'est on suspending. Ça veut dire qu'une fois que l'application elle va être terminée ou suspendue, il rentre dans cette partie de code-là. Là, c'est aussi une partie de code que je peux écrire quelque chose sur le disque pour sauvegarder mes données. Je suis en train d'écrire un lettre. Je change l'application. Le système, il a plus assez de ressources. Il va détruire mon application. Je perds la lettre. Si je sauvegarde dans cette petite partie-là de code, je ne vais pas perdre la lettre. Alors ici, c'est très facile. Je dis get deferral. Ça veut dire je veux prendre un petit peu de temps. Ne termine pas tout de suite, attends jusqu'à ce que je dis je complete. Ici, on n'a pas 50 minutes de temps, mais on n'a pas aussi un seconde. On arrive à faire un peu de travail. Alors, qu'est-ce que je veux faire là? C'est un peu de code, hein, mais. Les tiles, c'est comme ça, c'est tout un peu tordu, mais bon. Il y a une raison pour ça. Hein, mais. Alors, qu'est-ce que je fais? La première chose, je dis. Donne-moi la picture collection comme observable vector. Je veux louper dans les premières 5. Ici, ça peut être les dernières 5 que vous avez regardées, qu'est-ce que vous voulez. Et je dis, si tu l'as, l'image, je veux lire, je veux, et ça, c'est le même truc, je dois créer les 5 thumbnails locaux, sinon, si quelqu'un les fasse, il va en louper. Alors, ici, le code, c'est exactement comme avant, hein. On va faire vite le async. Voilà. Alors, je veux dire, le code là, c'est exactement comme avant. Je fais une copie du stream, exactement comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Je dois choisir le tile. Le tile, ce n'est pas du XAML. Pourquoi on n'a pas fait du XAML? Parce qu'il y a aussi des gens qui font du HTML. Pourquoi on n'a pas fait du HTML? Parce qu'il y a aussi des gens qui vont envoyer server-side depuis un code Java. Qu'est-ce que va? La tile, on ne veut pas que tout d'un coup ça devienne une créativité incroyable. On donne des templates qui sont déjà faits. Alors, il y a une liste de templates. Ici, on peut y les chercher. C'est où? Talent Template Catalog. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a tous les templates avec les noms et toutes les informations. Et chaque template, par exemple, je ne sais pas, je veux une photo wide avec, on va le faire passer tout, on va le trouver seulement celui-là qui j'aime pas mal. Par exemple, je peux utiliser ça. Et vous voyez, il y a un fichier XML à côté qui donne la structure de tile. Alors, je peux ajouter les 5 images, qui sont les 5 images ici, puis les 2 lignes de texte. Alors, il faut choisir la taille que j'aime bien, qui ça passe pour mon application. Et puis, changer l'XML. Par exemple, celui-là serait parfait. Deux lignes, une ligne d'image, une ligne de texte. Alors, excusez-moi. Avec le Tile Update Manager, je vais me faire retourner un document XML et je dis, je veux ce type de tile. Ça, il y a tous les tiles que vous avez vus. Je prends celui-là qui a une image, un texte et je lui change le texte avec le nom de l'image. Et je veux changer l'image, je lui donne le URL qui va chercher dans mon local storage l'image que je viens de sauvegarder là-haut. Juste. Je fais une copie de l'image et je lui dis l'URL de cette image, fais-la voir dans le tile. L'unique chose différente que je fais, avant que je fasse un schedule tile notification, et je lui dis pour chaque image, fais après 10 secondes. Alors la première image après 10 secondes, la deuxième après 10, c'est comme ça. Je peux même le faire tout de suite, hein, il va louper. Hein. Mais je peux même dire ici une erreur. Je veux dire, à 9h demain matin, fais voir un sunrise. À 9h, c'est un peu tard, mais bon. Et à 7h de la soirée, un sunset, par exemple. Vous pouvez scheduler comme vous voulez. Et maintenant, c'est fini. Notre truc à faire, si vous voulez updater un tile wide, il faut donner un logo wide. Je ne veux pas updater ma secondary tile, mais je veux updater la primary tile. Alors, on va le donner ça. On va dire dans le manifest, ici dans la UI, je vais dire, je veux un wide logo aussi. On va chercher un, je pense qu'ici, dans le photo, assets, non, ici, je l'ai vu, logo wide, parfait. Maintenant, je démarre ma application. Pour l'instant, elle ne fait rien du tout. Je peux aller regarder mes photos, faire ce que je veux, blablabla, je suis content. Maintenant, je ferme l'application, il fait triggerer cette partie de code-là, et maintenant, si je vais ici et je dis, je veux voir le large, on peut faire pour le large et petit, hein. On le laisse là, après à peu près 10 secondes, il va changer avec la première photo, puis la deuxième et tout ça. J'espère que ça marche. Et voilà la première photo, puis après 10 secondes arrive la deuxième et tout ça, vous avez vu? Qui c'est déjà un petit truc qu'on peut faire à partir de l'application. Pendant que ça marche, je peux updater mon tile. Une fois qu'il s'est fermé, je ne peux plus l'updater. Mais quand même, avec le scheduler, je peux faire des trucs qui ça change quand même. Parce que je dis, après une heure, change l'image. Après 2 heures, change l'image. Un truc comme ça. Bon. Il a même changé sur la deuxième. Hein. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc qu'il y en a. On a aussi... Les tiles, c'est bien, c'est beaucoup moins intrusif, je les vois, mais je force pas l'utilisateur à les voir et faire quelque chose, on le met juste à côté, ou dit Disable Lifetime Notification, c'est fini. Il y a certaines applications, nouvelle email, reminder et tout ça, qui on peut faire des toast notifications. Toast, c'est un petit carré qui sort, qui a aussi des templates, qui je peux montrer des informations à l'utilisateur. Alors là, il faut vraiment faire attention à ne pas y exagérer. Parce que si chaque 10 secondes, je mange des toasts, il ne va pas être content l'utilisateur. Il peut naturellement le déshabiliter, la notification des toasts, ce qu'il veut faire tout de suite. Mais bon, pour juste faire voir, par exemple, je vais mettre une alarme, une notification. Après une heure, il faut se rappeler d'enlever la tarte du four. Oui, la tarte du four, parce que sinon ça brûle, par exemple, si on a une application de recettes. Vu que j'aime faire des spamming, on a pensé, wow, pour ma application, je vais vraiment avoir les ratings les plus pénibles au monde. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire? C'est, une fois que je sors de ma application, ici, hein, où j'étais avant, je vois une toast notification après 30 secondes que je ferme l'application. Il faut se rappeler de réutiliser l'application. Je pense que c'est une utilisation du toast intelligent. Il va avoir des super ratings, cette application. Toast notification, c'est exactement comme les tiles. Je prends un template. Le template, cette fois-là, il n'a qu'un texte. Je peux voir texte image. Je lui donne un texte. Remember to use more the photo app. Je lui donne un time quand il doit se triggerer, 30 secondes. Ma application, c'est déjà terminé, elle ne vit plus. Il va sortir les toasts. Les toasts, ce n'est pas manger. Hein. Et ici, je lui donne même un ID, c'est un spam toast. Je l'ajoute, alors create toast notifier, add to schedule, c'est fini. Il faut encore dire un truc, il faut l'habiliter parce qu'on lui donne l'utilisateur la possibilité de le déshabiliter. Alors ici, je lui dis toast capable, yes. Voilà. Démarre ma application. Je ferme l'application. Tout le monde est content. Mais après 30 secondes, arrive la surprise. Alors, on attend, mais je peux continuer à vous expliquer. On a vu, on a deux types de notifications, le Lifestyle et le Toast Notification. Maintenant, on a vu comment on peut faire à partir de l'application elle-même, juste. Mais vu que l'application, après, ça ne marche plus, ne peut plus faire rien. Alors, comment il fait Swiss Code qui, chaque certain temps, il veut changer la valeur du dollar, un truc comme ça. Ben, il y a deux solutions. Un, c'est le Windows Push Notification Services. Voilà, hein, c'est fantastique avec le temps. Il me ennuie exactement pendant la présentation, mon toast. Après, je ne vais même pas faire le dismiss, il va retourner si jamais. Alors, il faut vraiment l'utiliser bien. Mais, retournons sur mon chapitre. On dit, on peut utiliser push notification, ça veut dire j'ai un pub subscriber sur mon serveur. Je dis, ouh, si une valeur ça change, je regarde tout le monde qui a fait un subscription à mon truc et je lui envoie un message par un serveur Microsoft de mise à jour de la taille ou d'un toast. C'est super puissant, c'est super scalable, il a juste un petit problème. Il faut écrire pas mal de code aussi de votre server-side côté parce que imaginez que SwissQuote il doit stocker pour chaque utilisateur quelles sont les tailles et quelles sont les valeurs qu'il a sur son desktop. Ce n'est pas très pratique. On peut le faire. C'est encore plus puissant. Je sais, même cet utilisateur-là, il aime bien les stocks américains, des trucs comme ça. Mais je dois faire un service infrastructure. Il y a un autre truc qu'on peut faire qui c'est les background tasks. Alors, ici, c'est comme ça marche le processus sur Windows 8. Je démarre l'appli. La première chose, c'est une petite image de split screen. Votre application, c'est un foreground ou snap view. Votre code, ça marche tout le temps. Et vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. App suspended. On a un petit moment que je peux faire quelque chose, comme je fais, app detail. Et puis, depuis là, je ne peux plus faire rien. L'application, ça peut même être terminée. Il n'existe même plus en mémoire, il n'existe même plus. Mais, on a une possibilité de faire un limited background task qui marche en background. C'est très, très limité. Mais un truc qu'on peut utiliser pour faire, c'est exactement un update. On doit décider de trigger. Par exemple, hein, c'est si le user is present ou pas. Si vous pensez, on a Skype, comme fonctionne Skype pour Windows 8 Store. Il a aussi le même règlement qu'on a nous pour notre application qu'on écrit. En effet, ce registre dit, j'ai un background task qui va être notifié si l'utilisateur il change d'être présent ou pas. Comme ça, je peux donner la présence à mon serveur et dire, Ronnie, il est parti, on ne peut plus l'appeler avec Skype sur cette machine-là, par exemple. Mais un autre truc très, très simple que je peux faire des triggers. Je dis, chaque, et ça c'est le minimum que je peux faire, chaque 15 minutes, je me réveille, et j'obtiens 2 secondes de temps de CPU. Ces 2 secondes de temps, un CPU à 100%, ça veut dire que vous avez à peu près 10 secondes de temps pour faire quelque chose. Hein. On peut appeler un web service, sortir des informations et l'afficher. SwissQuote, il fait exactement ça. Pourquoi je sais? Parce que j'écris ce petit code-là d'exemple pour lui montrer. Chaque 15 minutes, il va... Il prend la valeur de ma taille du serveur et il update la taille. L'avantage, il n'a rien server-side chez SwissQuote qu'il doit faire. C'est un petit web service appel chaque 15 minutes. Mais on ne veut pas que chaque application peut faire ça. Alors, c'est l'utilisateur qui peut décider. La règle, c'est si je suis sur le lock screen, après, il va me demander, je peux avoir jusqu'à 7 applications qui peuvent se réveiller chaque 15 minutes. Ou sinon, je fais un maintenance trigger qui, ça marche chaque 15 minutes aussi, mais seulement si je suis branché à la courant. Si je me débranche à la courant, là, c'est rien. Et SwissQuote fait exactement les deux. Comme ça, elle peut décider. Si je suis dans le lock screen, bien, je marche une batterie que si je suis branché à la courant. Si on ne veut pas comme première application sur le lock screen, qu'il n'y a que 7 slots, ben, il va quand même, quand il est branché à la courant, avoir l'update. Ah, on va faire exactement le code pour ça. C'est un petit peu de code, il faut un peu comprendre que je ne peux pas avoir une classe dans ma application parce que ce sera un autre process qui c'est Windows 8 qui fait démarrer parce que ma application elle est terminée. Alors, comme je fais à faire ça, on va vite faire ici dans mon code. Je dis je veux un autre type de librairie. On va lui dire que je veux un autre projet. Et ici, il faut choisir. Je fais encore un C#. Et c'est un Windows Runtime Component. C'est un composant qui se marche. Il peut même être appelé dans l'application HTML, si vous voulez. On lui donne un nom. Et ça, le nom, il ne faut pas le louper, sinon il ne donne que des erreurs. Le nom, c'est égal, mais il faut qu'on sache que c'est un background task. Cette background task, il a une classe ici. Alors ici, on va implémenter ma logique. La logique, c'est super simple qu'on va faire pour cette photo app. J'aimerais bien regarder combien de photos je n'ai, ou si je n'ai de nouveaux. Et je lui montre toujours combien de photos il a. Oh, regarde, tu as 5 nouveaux photos, tu ne veux pas les regarder? Par exemple, parce que c'est synchronisé par le cloud service, il a branché une caméra, il a copié, tout ça. Mais ici, vous pouvez même appeler un web service et demander, par exemple, Ricardo peut regarder où les derniers bits, est-ce que vous êtes overbidé, un truc comme ça, par exemple. Je dois implémenter le iBackground task, qu'il veut une méthode qui s'est run. Et là, le code, c'est exactement ce qu'on a fait avant. Hein. Tile notification, je veux, et cette fois-là, je me dis, donne-moi la liste de toutes les images que j'ai dans la Picture Library. Et puis, je prépare la notification. Je lui dis, je veux le square block, carré, avec le total des images que j'ai. Et je lui montre un label text photo. Enfin, j'ai 221 total photo. Tout fini. Et je l'envoie. Fini là. Ça, c'est la partie qui va marcher dans le background. Maintenant, il faut le registrer. Alors, il faut le déclarer dans le manifeste. Ah. On va dans le manifeste, si on arrive, voilà. Dans le manifeste, je vais dire dans le declaration, et je lui dis, je veux utiliser le background task. Et le background task, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un upset, il se dit, quel est le trigger? C'est un timer. Et quel est l'entry point? L'entry point, il ne faut pas le louper, hein, c'est background task et puis c'est la classe qui je dois. Après, il va chercher l'interface à chercher iBackground task, il va appeler le run. C'est fait. Maintenant, il n'est pas trop content parce qu'il dit attention, si vous utilisez le timer trigger, il faut aussi habiliter le lock screen et il faut aussi choisir un petit batch logo, qui est un petit logo encore plus petit, qui c'est ce qui va montrer. Dans le lock screen, on va le chercher. Voilà. Et maintenant, je suis prêt. Ça manque quelque chose, je dois enregistrer. Je dois lui dire la résolution du timer, par exemple. Alors, on va dire la première fois que tu arrives sur la page. Voilà. Ici, hein, quand on navigue tout, on va enregistrer ce background task. Ça, il faut prendre les exemples et copier, hein, parce que. Et je lui dis, oh, essaye à me mettre, et ça, ça veut dire, je veux être habilité à avoir un background task depuis l'utilisateur, aussi encore await, alors c'est async, voilà. Et depuis là, je dis, si je suis déjà enregistré, désregistrement, enregistre, et sinon, je dis, je veux un nouvel task, c'est un tile updater, le nom. Et le entry point, c'est exactement ce qu'il a déclaré avant. C'est un background task à l'updater. Chaque 15 minutes, register. C'est fini. Alors là, je dis, chaque 15 minutes, il va réveiller l'autre classe, il va faire une opération. Maintenant, si je démarre l'application, et j'arrive ici, théoriquement, je loupais quelque chose, il aurait dû me demander. Hein, je loupais quelque chose. Naviguer tout. C'est juste. Hein. Voilà. Ils disent, est-ce que je veux ajouter l'application à le lock screen, comme ça elle peut fonctionner en background. Et depuis là, il va chaque 15 minutes fonctionner. Mais non, on ne va pas attendre 15 minutes, c'est déjà fini ma session. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai déjà préparé un qui me donne le tile. Et vous voyez, il va donner exactement un truc comme ça. Il va dire 223 photos total. Chaque fois que je change la photo, il va faire voir. Et il y a aussi le spammer qui retourne tout le temps. C'est très bien. Je dis, j'ai recommandé, c'est un design recommendation by Ronnie, un spammer. Chaque fois que tu quittes l'application, il donne un toast. Et voilà. Alors, vous avez vu, c'est un bel petit truc qu'on peut faire pour utiliser une application d'update tile sans créer un serveur infrastructure, rien de ça. Il y a beaucoup d'applications qui font des trucs comme ça. Ils utilisent un background task pour updater les tiles. C'est beaucoup plus simple parce que je peux faire, si vous voulez, un pull au lieu d'un push qui fait un public subscriber server side. Si vous, vous avez déjà l'infrastructure, push notification, c'est gratuit, c'est formidable. Mais c'est beaucoup de logique server ça qui peut-être vos clients, votre application, votre serveur, il n'a pas encore. Voilà. On va encore ajouter une petite fonctionnalité qui sait bien. Vous avez perdu la direction. Alors, un truc qu'on a aussi, on a le Bing SDK. On offre des cartes. Si vous voulez intégrer de la cartographie, location aware et des trucs comme ça dans votre application. Le Bing SDK, c'est valable pour HTML5 ou XAML. Il y a un contrôle pour tous les deux. C'est gratuit. On doit déjà utiliser vraiment des millions de tiles pour commencer à payer quelque chose. Je vous garantis, la plupart des utilisateurs des applications n'ont pas besoin de payer quelque chose. Il faut lire les requirements. Et c'est aussi très simple. Il est un peu méchant, le contrôle, mais c'est, une fois qu'on a compris les deux, trois trucs, c'est assez facile à développer avec. Alors, le design de ma application, je sais que certaines photos, ils ont location, ils ont les coordonnées GPS. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux montrer sur la carte où c'était pris cette photo-là. Ça, c'était l'idée de l'application. Alors, première chose, je dois ajouter des références. Ah, je suis une debug mode. J'ai déjà pris un. Qu'est-ce que marche? Dans les références, je veux dire où je veux utiliser. Je dois l'installer avant. Le Bing Map SDK. Et le core de Bing Map, c'est fait en C++. Alors, je dois prendre aussi le runtime. Le problème des composants C++, c'est qu'il doit, être recompilé si je pars de Intel à ARM. Alors, du moment que j'utilise le Bing Map, il me dit attention, il faut changer. Ton projet, il faut faire un target. Ça veut dire, dans le Configuration Manager, il faut dire, c'est plus générique, mais c'est Intel. Et après, je peux faire un script qui va compiler automatiquement la version ARM. Il ne faut pas changer de code. Il faut juste configurer Visual Studio qui gère deux binary et uploader deux binary. Voilà. À ce moment-là, le truc que je dois faire, c'est de... ajouter la carte et la faire fonctionner. Alors, dans un photo viewer, on va déclarer le namespace ici. On va lui dire XML namespace, double point Bing. Je pense que c'est Bing.maps, un truc comme ça. Et depuis là, on va placer la carte. On va la mettre au dehors de ma hiérarchie, mais avant le bar, par exemple, après le flip view. Et là, je copie ce code-là, c'est vraiment rien de complexe. Je dis, je veux une carte. Par défaut, ce n'est pas visible. Je dois lui donner les credentials. Je dois enregistrer sur Bing, sinon il me donne ce truc, send trial version, blablabla. Ça, c'est ma clé. Je lui dis, c'est une note à gauche et c'est grand 640 par 480. Fini là. Maintenant, je vais faire la logique. Je vais ajouter un bouton qui dit « Show on map ». On va ajouter le bouton dans la barre. Je dis que ça va être « Map button ». On va dire « Show on map ». Et voilà. Et ici, on va changer ça. Voilà. Et maintenant, je peux écrire ma logique de la map. Alors, je vais faire deux choses avec la carte. Je veux positionner la carte qui le centre, c'est exactement où je prends ma photo. Je vais zoomer un certain niveau qui je vois bien où s'était pris la photo. Et la dernière truc que je vais faire un petit push pin qui voit exactement où s'était pris la photo. Alors, pour faire ça, il est vraiment vite fait. Voilà. Je vais lui dire. Je vais lui donner un nom, ça doit marcher. Une fois que je récompile, si je ne pas louper rien, ça va marcher. Toujours ce problème. Je vais louper le namespace, c'est quoi? Mais c'était juste. Hein? Ah, using, j'ai oublié. Ah, quel... Et puis, qu'est-ce qu'il a encore qu'il n'aime pas? Avec Bitmap, c'est toujours des fois. Voilà. Non? Pas encore. Ah, il fait toujours. Les références sont là. On a changé le projet. Je ne vais pas faire que. Build Configuration Manager. Je lui dis, je vais X86 pour celui-là. Voilà. J'ai encore une solution qui ne sait pas bien. Ah, cette Bitmap. Oups, Visual Studio. Il est un peu méchant avec les fois qu'il s'est fait pour toutes les plateformes. Il est un peu méchant. Et des fois, il ne marche pas juste. Et je n'ai pas encore bien compris qu'est-ce que je loupe. On essaie encore une fois voir si ça marche maintenant. Non. Ah non, mais maintenant c'est juste, maintenant c'est juste. Maintenant c'est mon truc là. Maintenant il faut finir le code. Non, c'est où Photo Viewer. Maintenant c'est qu'ici je dois faire le resolve. Si le Bing Maps, une fois que vous avez changé le de compiler pour X. 8 en 6 et tout ça, et ça ne marche pas encore, fermez Visual Studio, redémarrez Visual Studio, ça marche. Il y a un petit bug, des fois ça marche tout de suite, des fois non. Mais bon. Maintenant je dis, si ce n'est pas visible, lis la latitude et la longitude de ma photo, fais voir la carte, gère un push pin, ajoute là-haut comme texte pour voir qui c'est le push-pin comme ça. Set la position du push-pin avec les coordonnées. Enlève le push-pin s'il y avait des autres avant. Ajoute celui-là. Fais voir la carte qui je veux une information satellitaire. Et la dernière chose, je dis, fais voir la view qui c'est centré exactement où c'est la page, où c'est la photo, excusez-moi, et avec un zoom de 18. Si c'est déjà montré la carte, on la fait pas voir. Ah, maintenant. On va voir. Oui. Ajouter. On va choisir. Je pense que celui-là, c'est un geolocation. Show a map. Il va zoomer. Et on voit exactement qui, parce que la plupart des gens pensent que c'est fake. La photo s'est vraiment prise dans le lac du col du Gotthard, exactement là-haut. Et lui, il est exactement avec la vélo dans le lac. C'est un courrier qu'on a fait, mais juste pour faire voir, c'est vraiment la photo. Et on a vu qu'on a branché avec Bing Map tout ça. Pour voir que la photo s'est vraiment fait au Gotthard, ça c'est moi qui fais la photo, lui qui saute dans l'eau. Et vu que je suis tellement con, j'ai voulu répéter l'opération, je pense. Ici, je dis, je vais répéter, mais avec l'eau beaucoup moins haut. Comme ça, une fois que je loupe, ça ne fait pas un grand dommage. Juste pour dire. Bien. Pour terminer, je pense qu'il a bien fait. Oui. Et voilà. Alors, pour conclure, on a vu beaucoup de trucs qu'on a fait. Le Live Tiles, le Snap View, le Notification, le Toast. On a vu aussi comment utiliser Bitmap, comment faire du background processing avec des Windows 8 et tout ça. Alors, si vous avez déjà, comme je dis, des know-how dans XAML C#, il faut vraiment seulement apprendre ces trucs-là que j'ai montrés aujourd'hui pour comprendre quelles sont les limitations, mais aussi les possibilités qu'il donne l'application Windows 8 Store pour créer des applications pas mal puissantes et pas trop compliquées, et aussi avec ce super toast-là qui stresse tout le temps à ne pas faire. Mais vous voyez, ce n'est pas vachement compliqué, il faut vraiment juste comprendre un peu. Le gros avantage, vous pouvez créer une application très vite, belle, pour le store, et comme je dis, ça marche sur toutes les applications, sur toutes les machines qui ont installé Windows 8 sans greffe. Je reste toute la journée dehors et à côté comme ça, si vous avez des questions, vous voulez voir plus de code comme ça. Et puis, je vais publier tous les deux exemples de cette application-là, comme ça vous pouvez copier le code, ce n'est pas production ready, mais au moins vous pouvez comprendre toutes les parties que je fais, parce que je pense que c'est la partie plus utile d'avoir tous les petits codes, snippets, pour les brancher sur votre application. Merci beaucoup de votre temps, on se voit pendant les pauses et dans la pause de midi. Merci beaucoup.